À 8h, le journal, présenté par Camille Magnard. C'est à vous, Camille, bonjour.
Bonjour à tous. Un aller simple Riyad Paris pour Saad Hariri et sa famille. Le premier ministre démissionnaire du Liban sera reçu à l'Elysée par un Emmanuel Macron qui s'affiche en médiateur entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Mais ce nouvel épisode parisien à la crise est loin de la régler, nous le verrons.
L'Europe veut montrer qu'elle agit rapidement contre les paradis fiscaux. Les pays soupçonnés de profiter de l'évasion fiscale avaient jusqu'à minuit pour prouver le contraire. La liste noire des mauvais élèves sera bientôt publiée par Bruxelles.
La République en marche, elle, tient aujourd'hui à Lyon son premier conseil national et les dissensions internes devraient un peu gâcher la fête. Des militants marcheurs quittent le navire, pas assez démocratique pour que cela, selon eux, pas surprenant pour un parti hyper centralisé autour du chef de l'État. C'est ce que nous dira le politologue Pascal Perrineau.
Et puis Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, mise sur les jeux de hasard pour financer la protection du patrimoine français. Un loto spécial sera créé dès l'an prochain. Reste à savoir si cela compensera les baisses de dotations publiques aux communes qui doivent rénover leurs monuments.
Et puis le deuxième invité des matins, Caroline.
Notre deuxième invité donc, Jean-Marie Cavada, député européen, président du mouvement Génération Citoyen. Il vient là aussi pour une casquette ancienne d'ancien journaliste de télévision, fondateur de France 5, ancien président de Radio France. Nous parlerons d'abord d'audiovisuel public, puis de politique. Et sans doute un peu d'Europe.
Mais avant de développer tous ces titres, nous évoquons l'envers du décor de la guerre contre Daesh. Très loin des bilans officiels des frappes aériennes menées par la coalition internationale avec les États-Unis à sa tête, mais à laquelle la France participe également, les journalistes du quotidien américain le New York Times remettent en cause le nombre de victimes civiles de ces bombardements alliés. 18 mois d'enquête de terrain dans le nord de l'Irak et un coût humain à cette guerre beaucoup plus lourd que ce que veut bien nous dire le Pentagone. Précision depuis Washington avec Grégory Phillips.
Depuis le début de cette guerre, il y a 3 ans, il y a eu officiellement 27 500 frappes aériennes sur l'Irak et la Syrie qui, selon la coalition, ont tué des milliers de combattants de Daesh, mais aussi 466 civils considérés comme des victimes collatérales. Mais ce que les journalistes du New York Times démontrent, c'est que le bilan est beaucoup plus lourd. Une frappe sur 5 tue des civils, selon les estimations du journal, alors que la coalition dit que c'est une sur 157. On est dans un rapport de 1 à 30. Pour le vérifier, les journalistes ont sillonné le nord de l'Irak pendant 18 mois, de village en village, de maison en maison. Il raconte par exemple l'histoire de Bassim Razo, un habitant de Mossoul. 2 bombes sur sa maison la nuit du 20 septembre 2015. 4 morts, dont sa femme et sa fille, qui n'apparaissent pas dans les décomptes de la coalition. 17 mois plus tard, cet habitant de Mossoul reçoit de la part des militaires une proposition de dédommagement. 15 000 $, refus de l'homme qui se sent insulté. Pour l'instant, selon le New York Times, aucune famille en Irak ou en Syrie n'a été indemnisée par la coalition.
Et sur la Syrie, la nuit dernière à l'ONU, la Russie a opposé son veto, le second en 24 heures, veto à un projet de résolution proposé par le Japon qui voulait prolonger d'un mois le mandat des experts internationaux enquêtant en Syrie, donc sur l'utilisation d'armes chimiques.
C'est presque un retour à la maison pour Saad Hariri et sa famille. Le premier ministre démissionnaire du Liban arrive ce matin à Paris, après 2 semaines d'une crise diplomatique qui n'a pas fini de faire trembler le Moyen-Orient.
Oui, 2 semaines passées à Riyad, en Arabie Saoudite, d'où Saad Hariri avait annoncé sa démission. Il y a donc 2 semaines, il a fallu qu'Emmanuel Macron se rende en personne en Arabie Saoudite pour obtenir qu'il puisse quitter le pays. Et le chef de l'État français reçoit donc Saad Hariri à l'Élysée ce midi en tant que chef du gouvernement libanais. Mais ce passage par Paris de Saad Hariri pose au moins autant de questions qu'il n'apporte de réponses, Éric Bégala.
La première question que pose l'arrivée de Saad Hariri en France est celle de savoir s'il ne s'agit pas là d'une sorte de libération. Le Premier ministre démissionnaire était-il ou a-t-il été, d'une manière ou d'une autre, retenu en Arabie Saoudite? Dans l'unique interview télévisée qu'il a accordée à la chaîne de son parti, Future TV, recueillie à Riyad et diffusée dimanche dernier, le Premier ministre avait juré être absolument libre de toute pression saoudienne, mais sa prestation télévisuelle elle-même semblait indiquer exactement le contraire. Et puis, on remarque bien sûr qu'il a fallu les voyages d'Emmanuel Macron, puis de Jean-Yves Le Drian, à Riyad avant que Saad Hariri ne s'envole effectivement vers la France, comme si on avait dû aller le chercher. Seconde question, avec son arrivée à Paris, s'agit-il là du début d'un exil pour Saad Hariri? Certainement pas, si l'on en croit Emmanuel Macron. L'Élysée précise que la France a invité le Premier ministre à venir avec sa famille quelques jours en France, dans un geste d'amitié et non pour un exil. Alors quelques jours à Paris, ou peut-être quelques semaines, c'est ce que supputait hier le président français. En fait, nul n'a l'air de le savoir. L'un des cadres du parti de Saad Hariri évoquait hier soir un séjour parisien de quelques jours, avant un petit tour dans certains pays arabes et un retour au Liban vendredi prochain. Car la troisième interrogation est bien celle-là, quand donc Saad Hariri rentrera-t-il au Liban? Est-ce que ce sera bien pour y démissionner formellement? Pour le moment, le président de la République libanaise, Michel Aoun, a dit attendre le retour de Saad Hariri avant d'accepter sa démission. Quant à Hariri lui-même, il a également envisagé la possibilité de revenir sur cette démission, à condition que le Hezbollah, son allié politique dans le gouvernement libanais, mais aussi le grand allié de l'Iran et de Bachar al-Assad, cesse ses opérations militaires en Syrie ou au Yémen.
Éric Biegala est sur la situation au Liban, justement, comment voit-on cette arrivée de Saad Hariri qui est donc arrivé ce matin à Paris? Quel scénario pour l'avenir politique du Liban à présent? Valérie Crova a posé la question à Karim Bitar, il est professeur de relations internationales à l'université Saint-Joseph de Beyrouth.
Le scénario qui est envisagé à ce stade serait celui d'une renégociation du modus vivendi. Le Hezbollah ferait de légères concessions, notamment en promettant d'interférer un peu moins dans les affaires yéménites. Les Saoudiens reprochaient au Hezbollah d'avoir soutenu, en envoyant quelques conseillers militaires et experts, la rébellion des Houthis au Yémen. Donc cela serait l'hypothèse plutôt optimiste, celle d'un retour à un compromis sur la scène intérieure libanaise. Une autre hypothèse serait celle d'une radicalisation sunnite sur instigation de l'Arabie Saoudite. Et à ce moment-là, il faudrait trouver une personnalité un peu plus radicale que Saad Hariri qui pourrait un peu remettre le camp saoudien en ordre de marche et prendre des positions beaucoup plus fermes. On irait donc vers une longue crise institutionnelle avec le Hezbollah.
Karim Bitar qui répondait aux questions de Valérie Crova. Dans le reste de l'actualité internationale, il est décidément bien isolé désormais, le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, chassé de son trône par son armée cette semaine, assigné à résidence. Il fait face à la défection désormais de son propre parti présidentiel, le ZANU-PF, qui appelle les Zimbabwéens à manifester aujourd'hui dans la capitale Harare pour exiger qu'il renonce officiellement au pouvoir.
Identifier, menacer, punir, c'est la stratégie de la Commission européenne en matière de lutte contre les paradis fiscaux. Un sujet remis au cœur de l'actualité par les Paradise Papers et sur lequel Bruxelles veut montrer qu'elle frappe vite et fort.
Et d'ailleurs, hasard du calendrier, c'est la nuit dernière que s'est achevée la phase dite de l'identification des pays qui hébergent et qui profitent de l'évasion fiscale. Place à la menace, donc désormais avec la liste noire des paradis fiscaux qui sera dévoilée début décembre, Quentin Dickinson.
Une cinquantaine d'États et de territoires situés un peu partout dans le monde en dehors de l'UE avaient été sommés par la Commission européenne de modifier leur réglementation et leurs pratiques en matière de contournement fiscal. Ces pays avaient jusqu'à minuit hier pour faire connaître leur position. Aux dernières nouvelles, seuls 7 d'entre eux n'auraient pas réagi. Ceux-ci, tout comme ceux dont la réponse n'aurait pas été jugée satisfaisante, risquent fort de se retrouver sur la liste noire des paradis fiscaux que l'UE rendra publique le 5 décembre prochain. Si les 28 sont unanimes quant à la constitution de cette liste, en revanche, ils divergent encore considérablement sur l'opportunité et sur la nature de sanctions à imposer aux pays fautifs et à leurs clients. Les Pays-Bas et Malte, en particulier, continuent à s'opposer au principe même de sanctions. Celle-ci pourrait cependant prendre la forme de taxes sur les capitaux qui s'apprêtent à prendre le chemin des pays de la liste noire ou de pénalités infligées aux entreprises qui font transiter leurs fonds par ces pays ou encore d'un gel des aides financières européennes et internationales dont bénéficient ces derniers.
Quentin Dickinson à Bruxelles pour France Culture et bonjour à vous Jean-Marie Cavada.
Bonjour à vous tous.
Vous êtes avec nous ce matin pour parler principalement de l'audiovisuel public en tant qu'ancien président de Radio France, mais c'est disons pour l'instant aux députés européens que je voudrais m'adresser. Est-ce que l'Europe, selon vous, réagit à la mesure de ce scandale de l'évasion fiscale depuis l'an dernier et les Panama Papers?
C'est une question qui aurait dû commencer à être traitée depuis beaucoup plus longtemps parce que l'évasion fiscale se traite, ou plutôt bénéficie à travers deux structures, des grands groupes nationaux, des grandes fortunes nationales, pays par pays, à des systèmes européens mais aussi extra-européens. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Une chose assez simple, il y a à l'intérieur de l'Union des pays qui ont des législations extrêmement favorables et qui s'apparentent évidemment à de la dissimulation d'impôts. C'est le cas du Luxembourg, c'est le cas des Pays-Bas, un peu de l'Autriche, c'était le cas naturellement de la Grande-Bretagne et tout ça doit être maîtrisé. Il est tout à fait impossible de continuer à voir s'évaporer les 200 milliards que nous voyons passer, qui ne rentrent pas dans les caisses publiques, qui ne sont donc pas en partage avec le bien public.
Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que l'on fait? sachant que justement les Pays-Bas sont pointés du doigt, l'île de Man, l'île de Malte, au sein de l'Europe, sont pointés du doigt par les Paradise Papers.
Vous avez entendu dans la bouche de Quentin Dickinson quelques solutions qui sont envisagées. Évidemment, ce genre de choses bloque, parce que ceux qui abritent ces paradis fiscaux, qui ont des législations extrêmement laxistes dans ce domaine, ben évidemment, ils ne contribuent pas à l'unanimité qui est nécessaire dans ce genre de décision. Mais il y a des taxations possibles qui sont en train d'être étudiées techniquement, et vous l'avez entendu tout à l'heure, et par ailleurs, vous remarquerez que qu'il s'agisse de Pierre Moscovici d'un côté, de Mme Vestager de l'autre, la question de la légalité de la concurrence pour Mme Vestager, la question en effet de museler l'évasion fiscale pour Moscovici.
Les deux commissaires
Oui, ça fait du chemin. Moi qui suis au Parlement européen, et j'en termine depuis 2004, naturellement c'est un autre climat, d'ailleurs il faut dire les choses, on le doit beaucoup aux investigateurs qui jouent dans cette affaire une sorte de poids sur l'opinion dont les dirigeants ne peuvent pas s'exonérer. Il va bien falloir traiter ça sur le fond.
Jean-Marie Cavada, merci beaucoup de cette intervention dans le journal de 8h. On vous retrouve à partir de 8h15. Il est urgent d'attendre l'an prochain. C'est à nouveau le refrain que l'on a entendu entre les lignes cette nuit à Bonn où s'achevait la COP23. Urgence réaffirmée et à l'unanimité du réchauffement climatique et report tout de même à l'an prochain des grandes décisions attendues depuis Paris il y a 2 ans maintenant. Entre-temps, les pays signataires s'engagent à faire fin 2018 en Pologne le bilan collectif de leurs émissions de gaz à effet de serre, dossier sur lequel nous reviendrons dans notre édition de 9h.
France Culture, 8h11, suite du journal. Pas si disruptive et finalement pas si démocratique que ça, La République En Marche.
Le parti de la majorité présidentielle tient aujourd'hui le premier conseil national de sa jeune histoire. Ça va se passer à Lyon, en présence du Premier ministre Édouard Philippe. Mais l'homme du jour, ce sera Christophe Castaner, unique candidat au poste de numéro 1 du parti, imposé par Emmanuel Macron en personne. Car au-delà des promesses de nouvelles pratiques partisanes plus démocratiques, les militants ont vu se développer des très centralisée autour du chef de l'État. Certains en ont été surpris, pas le politologue Pascal Perrineau.
On voyait dès le départ que c'était une organisation entièrement dévouée à la promotion de son chef, créée par et pour Emmanuel Macron, incroyablement personnalisée, En Marche Emmanuel Macron. On a vu qu'il y avait un premier débat l'été dernier, lorsque les militants, les adhérents ont été en discussion autour des statuts. Et on voyait bien que l'aspect très centraliste, laissant peu de place à la démocratie interne, provoquait des réactions plutôt négatives de certains adhérents. Et ça s'est accentué avec la préparation de ce conseil à Lyon, où les adhérents s'aperçoivent mais de ce qui est inscrit dans les statuts. Le choix en particulier du chef, du fameux délégué général que sera Christophe Castaner, eh bien c'est un choix qui est dans les mains de l'appareil du parti et que la place laissée à la représentation de la base est une place marginale. Donc il y a une certaine déception vis-à-vis d'une organisation qui se vivait comme radicalement nouvelle et dont on découvre qu'elle a certains traits, j'allais dire très classiques et même peut-être archaïques, parce qu'une telle centralisation de la nomination, ça rappelle les partis qu'on appelait au début de la Ve République le parti Godillot, qui est à la main du président de la République pour gouverner. Donc voilà, La République En Marche découvre qu'il est très difficile d'être une organisation nouvelle dans les institutions de la Ve République.
Pascal Perrineau du CEVIPOF Sciences Po au micro de Stéphane Robert. Et puis l'Élysée, le gouvernement nous promettait depuis des mois des solutions innovantes pour financer la protection du patrimoine en France. C'est finalement une vieille idée d'une quinzaine d'années déjà qui a été retenue par la ministre de la Culture. Françoise Nyssen annonçait hier l'organisation d'un tirage spécial du loto l'an prochain pour les journées du patrimoine. Un tirage dont les recettes, plutôt que d'aller dans les caisses de l'État, seront reversées à la Fondation du patrimoine. Cette idée, elle était donc portée depuis plus de 10 ans maintenant par le maire d'hiver droite de Versailles, l'ancien directeur de la Fondation du patrimoine, François de Mazière, qui nous explique pourquoi, jusque-là, Bercy avait refusé cette idée.
Le fameux, l'histoire, elle est simple, si vous voulez, c'est que la loterie, ça rapporte beaucoup d'argent à l'État. Et que l'État, évidemment, n'a pas envie de perdre cette richesse supplémentaire qui alimente le budget général. Donc Bercy a toujours été très opposé à ce type d'extension des jeux de la loterie au patrimoine. Donc jusqu'à présent, ça fait une dizaine d'années que je me suis battu sur ce sujet, on n'avait pas eu gain de cause, donc c'est bien que ce projet-là puisse aujourd'hui voir le jour. Ce que je dis, c'est qu'il y a une menace particulière qui vient de la baisse des dotations de l'État aux collectivités locales et que ce sont les communes qui sont les premiers investisseurs pour le patrimoine. Et là, je fais une autre proposition, c'est que puisque l'État est en train de réfléchir sur des politiques de contractualisation avec les communes, eh bien voilà une thématique qui pourrait être mise en œuvre. Les communes qui font des investissements importants pour restaurer tel ou tel bâtiment à caractère historique et patrimonial pourraient se voir moins sanctionnées pour la baisse des dotations.
Une proposition faite donc par le maire d'Hiver Droite de Versailles, François Demazière, sur Versailles et sur le reste de la France. Le temps ce samedi avec de la grisaille et des éclaircies sur une large moitié du pays. La pluie fera son retour en fin de journée. La neige, elle, pourrait tomber à basse altitude sur le Massif central, les Ardennes et la Lorraine. Les températures ce matin affichent entre 1 et 4 degrés. Cet après-midi, comptez entre 6 et 13.